Soyez les bienvenus. Pour le journal de Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous. Il a marqué toute une génération. Le PACS fête ses 20 ans. Il a aujourd'hui autant de succès que le mariage. À Nice, SOS Médecins pourra s'appuyer sur la police pour ses interventions dans les quartiers sensibles. Le premier anniversaire des Gilets jaunes ce week-end sous haute surveillance policière. Et puis des tueurs envoyés par des oligarques requins de la finance. Sortis aujourd'hui des nouvelles aventures de Largo Winch.
Je vous rappelle que dans 20 minutes, à 7h50, l'invité d'Ali Badou est aujourd'hui le journaliste américain Ronan Farrow, prix Pulitzer pour son enquête sur l'affaire Harvey Weinstein. Il publie en français aux éditions Kalman Levy son livre « L'Éphère-Terre ».
France Inter.
C'était il y a 20 ans, Laurence, le 15 novembre 1999, était adopté le PACS, le pacte civil de solidarité.
Il reconnaissait l'union de deux personnes, y compris du même sexe, sans pour autant lui conférer les mêmes droits que le mariage. Pour autant, il aura fallu presque 10 ans de débats avant d'aboutir à la promulgation de la loi. On se souvient des propos homophobes de l'ex-députée Christine Boutin qui, bible à la main dans l'hémicycle, lançait devant les caméras les PD au bûcher. 20 ans plus tard, le PACS est un succès. Ces dernières années, ils sont presque aussi nombreux que les mariages, que ce soit pour les couples homo ou hétéro. Sébastien Sabiron.
En 2017, sur l'ensemble des unions, l'INSEE dénombrait 4 PACS pour 5 mariages, un chiffre en constante progression, y compris depuis l'adoption du mariage pour tous. Mathieu, 29 ans, et son compagnon se sont PACSés pour des raisons immobilières.
Je suis titulaire du bail, il s'agit d'un logement social. C'était impossible pour moi de mettre mon compagnon sur le bail. Le PACS nous permet de pouvoir justement être tous les deux sur le bail, donc c'est une sécurité pour lui. Si jamais il m'arrive quelque chose, il peut rester dans l'appartement.
Plus facile à rompre qu'un mariage, le PACS reste aussi moins solennel dans l'esprit des couples. Paxé en 2014, Léonie et Benoît se marient l'an prochain.
On s'est paxé pour des raisons financières. On a décidé de se marier là pour sceller notre amour. Il y a une symbolique pour nous sentimentale qui est beaucoup plus présente et importante.
Moins protecteur en cas de décès d'un conjoint, le PACS n'a pourtant cessé de progresser chez les hétéros quand le déclin du mariage se poursuit. Preuve que cette union civile a encore de beaux jours devant elle selon Denis Quinqueton, co-directeur de l'observatoire LGBT+, à la Fondation Jean Jaurès.
Le PACS est un statut moderne. Il s'adressait d'abord aux couples homosexuels parce que c'était là qu'il y avait l'urgence, mais il s'adressait en réalité à tous les couples. On a montré que la société elle est diverse et que pour autant, même si elle est diverse, on peut avoir des lois communes. Tous les couples s'en sont saisis pleinement.
Dans l'Union européenne, une vingtaine de pays disposent d'une union civile. Seul le Danemark l'a supprimée au profit du mariage homosexuel.
Sébastien Sabiron, un autre anniversaire ce week-end, les 1 an du mouvement des Gilets jaunes. La révolte née d'une taxe sur le carburant s'est essoufflée. Alors cette date anniversaire arrivera-t-elle à mobiliser? Plus de 140 appels à manifester ont été lancés depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Certains ont choisi de retourner sur leur rond-point quand d'autres rêvent d'un retour sur les Champs-Élysées. Mais la célèbre avenue est désormais interdite aux Gilets jaunes depuis son saccage en mars dernier. Et il y aura beaucoup de forces mobiles et d'interventions ce week-end dans la capitale, Emmanuel Leclerc.
On pense qu'il ne sera pas possible de voir la situation dégénérer comme l'année dernière près de l'Arc de Triomphe et dans certains quartiers de la capitale, confie un haut responsable de la sécurité publique de la préfecture de police. Mais place Beauvau du côté du ministère de l'Intérieur, on évoque non pas une alerte rouge, mais une vigilance maximum. Hier soir encore, on arbitrait la répartition des forces mobiles. Plus d'une cinquantaine d'unités de CRS et de gendarmes mobiles sont réquisitionnées sur l'ensemble du territoire, ce qui correspond aux plus fortes mobilisations du printemps dernier. Pour ce samedi, dans la capitale en tout cas, plusieurs demandes de manifestation ont été acceptées après négociations sur les parcours avec le préfet de police, Didier Lallement, mais les services de renseignement évoquent déjà des cortèges dissidents et surtout à nouveau la volonté de groupes de l'ultra-gauche et des ultra-gilets jaunes de venir en découdre à Paris.
Emmanuel Leclerc, un premier anniversaire des gilets jaunes et des foyers de mécontentement qui prospèrent, hôpitaux, étudiants, retraites. Alors pour refroidir le chaudron social, séquence réconciliation et déminage à Pau, avec en ligne de mire la mobilisation du 5 décembre. Le maire François Bayrou a joué hier soir les hôtes d'un débat citoyen façon grand débat sur la question des retraites en présence de Jean-Paul Delevoye et du Premier ministre. ministre. Contrairement au commissaire aux retraites pressé de voir la réforme aboutir, le Premier ministre a affirmé hier soir clairement que l'exécutif ne passera pas en force sur les retraites. C'est le reportage de Laurence Perron.
Le Premier ministre ne les a pas vus. Les militants frigorifiés de la CGT n'ont finalement pas réussi à se saisir des invitations au débat.
Quand je vois des gens qui passent là, et à la tronche qu'ils ont, c'est des mecs qui doivent tourner à 5000 euros, ils vont parler de la retraite des jeunes. Attendez.
À l'intérieur de la salle, le haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye.
J'ai oublié votre question.
C'était la question qui était les perdants.
Ah, eh bien, les pères de trois enfants, ça c'est clair.
Huit groupes de travail qui restituent de manière très franche leur questionnement.
Un certain nombre d'entre nous trouvent que c'est bien d'avoir un projet, mais on souhaiterait qu'il s'articule dans un projet de société globale.
Le Premier ministre joue la même franchise.
La chose dont je suis convaincu, c'est qu'il n'y a pas urgence.
En mode déminage.
On peut le faire progressivement. On peut aller jusqu'à, c'est la fameuse clause du grand-père, dire c'est juste ceux qui rentrent dans le marché du travail qui sont concernés. Mais il y a une chose, il ne faut pas prendre les gens par surprise.
Pas exactement la position de Jean-Paul Delevoye, telle qu'il l'exprimait la semaine dernière, mais surtout ne pas parler de divorce.
Oh, il n'était pas très content quand même, le Premier ministre, en vrai.
Attendez, vous imaginez la tristesse qui est la mienne. D'ailleurs, je vous remercie pour le soutien que vous apportez à l'industrie textile du Nord, notamment celle des mouchoirs, car depuis, je ne cesse de pleurer.
Clairement, donc, l'urgence, c'est de ne pas se presser, rien n'est fermé. Le maître mot, c'est désormais transition. À Pau, Laurent Maquetti, Laurence Perron, France Inter.
Il est 7h36, un nouveau dispositif de sécurité à Nice pour protéger les médecins d'urgence dans les quartiers sensibles.
Ils avaient stoppé leur déplacement à l'Ariane, au Moulin ou encore au Liseron après l'agression violente du week-end dernier. Une jeune praticienne qui sortait d'une visite. La préfecture, la police et les médecins ont trouvé un accord. Les 30 praticiens d'SOS Médecins qui le souhaiteront pourront se faire accompagner dans leur tournée de l'aide de la police. Et c'est le médecin qui décidera au cas par cas, précise le directeur départemental de la police, Jean-François Hilly.
Accompagnement systématique dès qu'il nous fera la demande. C'est-à-dire que certains médecins ne le souhaitent pas. Par contre, on pourrait imaginer donc que les médecins veuillent signaler leur présence dans le quartier pour qu'on ne soit pas ignorant de leur présence dans le quartier et que les patrouilles qui sont à ce moment-là présentes sur le quartier puissent s'intéresser et vérifier dans le cas des rondes et patrouilles, est-ce qu'ils sont présents, est-ce que ça se passe bien, est-ce que tout va bien. Et donc c'est une présence renforcée. Personne qui est agressée, elle crie au secours et personne n'arrive. C'est ce qui est particulièrement traumatisant. Bien évidemment, il n'y en a pas énormément et on peut les gérer, je dirais, avec le dispositif en place.
Le directeur de la police des Alpes-Maritimes, Jean-François Hilly. Colère des écologistes ou quand le groupe pétrolier Total gagne une bataille à l'Assemblée, les députés réintègrent l'huile de palme dans la liste des biocarburants qui bénéficient d'une ristourne fiscale. Son exclusion sera rediscutée plus tard. Total avait menacé d'exporter une partie de sa production d'huile de palme de son usine des Bouches-du-Rhône en Allemagne. C'est la fin d'une interminable attente pour ses proches. Le corps du jeune Oliver Tony a été retrouvé hier après-midi près de Tours, dans un bois à Chambray-les-Tours, à 250 km de Noisy-le-Sec, le lieu de son agression la semaine dernière. Ce jeune homme de 17 ans, originaire de Sevran, en Seine-Saint-Denis, a été roué de coups au bord du canal de l'Ourcq pour un motif encore inconnu. Deux personnes sont toujours en garde à vue. En Irak, où la contestation contre le pouvoir continue, de nombreuses disparitions d'activistes inquiètent les manifestants. La Commission des droits de l'homme en Irak a ainsi confirmé l'enlèvement de plusieurs personnes. En marge des manifestations, elle dénonce des opérations d'enlèvement organisées. D'autres protestataires disent avoir reçu des lettres de menaces ou des coups de fil inquiétants. Parmi eux, beaucoup de jeunes femmes engagées en première ligne des manifestations. Notre correspondante Lucille Wasserman a rencontré l'une d'elles à Bagdad.
Rehan Feraz est une jeune irakienne de 21 ans. Elle est capitaine de l'équipe nationale de basketball féminine en Irak et suit des études de médecine à Bagdad. Des compétences qui l'ont poussée à s'engager en première ligne des manifestations, explique-t-elle, installée dans un restaurant.
Mon rôle principal dans la contestation, c'était de soutenir les manifestants. J'aidais les blessés et je leur apportais des médicaments.
Mais cet engagement n'est pas apprécié de tous en Irak. Après 10 jours passés sur place, elle est finalement rentrée chez elle et a trouvé une lettre de menace accrochée à sa porte.
Sur la lettre, il y avait écrit « Arrête de manifester » avec du sang dessus. Puis quelques jours plus tard, des hommes ont appelé mes collègues pour savoir si j'étais à l'hôpital. Ma famille est très inquiète, elle ne m'autorise plus à y aller.
Impossible de savoir qui est à l'origine de ces menaces, selon elle.
Je ne sais pas, il y a des gens qui travaillent pour le gouvernement dans les manifestations, alors c'est sûrement eux. Ils prennent des photos et identifient les gens sur place.
Si cette jeune irakienne dit-elle ne pas avoir peur, beaucoup ont déjà quitté les rangs des protestataires place Tahrir par crainte de représailles. Bagdad, Lucille Wasserman, France Inter.
Un nouveau pic de marée haute attendu à Venise après une inondation dévastatrice mardi dernier. L'Aqua Alta devrait atteindre en fin de matinée 1,50 m. L'hiver avant l'heure, en France, les chutes de neige sur la Drôme, l'Isère, l'Ardèche ont provoqué une belle pagaille et un drame. Un homme de 63 ans a été tué par la chute d'un arbre. Des arbres qui croulent et qui se cassent sous le poids de la neige tant elle est lourde. Un poids qui pèse aussi sur les lignes électriques. 300 000 foyers sont privés d'électricité dans la région. Sur la 7, les poids lourds sont toujours interdits de circulation entre Lyon et Orange. Le trafic SNCF est interrompu sur les axes Le Puy-Saint-Étienne-Lyon, Roanne-Lyon, Grenoble-Lyon, Roanne-Saint-Étienne-Montbrison et puis un TER a heurté un arbre près de Villars-les-Dombes. Il n'y a pas de blessés.
Il est 7h40, Laurence, les fans attendaient le retour de Largo Winch avec impatience.
Et les voilà occupés pour le week-end, 2 ans après l'étoile du matin. Voici donc la fin de l'histoire avec les voiles écarlates. Le tandem Franck Giacometti entraîne le milliardaire en Russie à la poursuite de ceux qui tentent de le déposséder de son empire financier. Une aventure, Jacqueline Petros, qui ne laisse pas le lecteur reprendre son souffle.
C'est un défi de taille pour Largo, rétablir son empire tout en échappant aux tueurs envoyés par des oligarques requins de la finance. De Saint-Pétersbourg à une datcha dans la neige et à la mer des Caraïbes, explosions et coups de feu laissent pas mal de cadavres. La nouveauté, c'est l'entrée fracassante de Largo dans la finance 2.0. Philippe Franck, le dessinateur.
Largo a toujours été une bande dessinée qui était en prise sur le monde actuel. On avait pris un peu de retard avec le développement d'Internet, avec le développement des réseaux sociaux. On voulait pallier ce manque.
Les mailles du filet du scénario d'Éric Giacometti sont emmêlées à plaisir.
Quand Éric a commencé à écrire le scénario, il m'a dit « Tu préfères la version simple ou la version compliquée ?» Et ben, je dis « Optons pour la compliquée !» On a toujours fait ça avec l'Argo. Ce sont 3-4 petites histoires qui finissent par se rejoindre à la fin. C'est très jouissif à mettre en scène.
Ça claque, ça bondit, couleur, trait, quel tempo. Et pour les prochaines aventures, Philippe Franck lève le voile.
Le 23 et le 24, donc La frontière de la nuit et Le sentier d'or sont écrits. C'est une surprise évidemment, mais on va changer radicalement d'univers. On va passer de nouveau sur 2 albums d'aventure pure.
En attendant, ce tome 22 va combler les lecteurs.
Les voiles écarlates chez Dupuis.
Merci Laurence Thomas.